mais quel bon moment de cyclisme nous offre le coureur Total Énergie.
Ah ça oui mon Richard, quel braquet incroyable.
Il est clairement en train de revenir, prêt à relever tous les défis.
Avec un tel soutien du public pour l'équipe Total Énergie, ça donne des ailes.
Toutes les énergies du sport nous rassemblent. Le meilleur du cyclisme se vit avec Total Énergie.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Non, là-dessus, vous êtes en retard et vous avez le pied au niveau de la chaussure. Je n'en veux plus. C'est clair? Vous voulez un soin ou ça va aller? Vous voulez un soin?
Condamné. Oh là 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 là. C'est plus une pression, là, je suis déjà au pilotis.
Je vous ai dit, je vais pas me flageoler tout seul.
C'est vraiment un casse-pipe chinois.
Vous voulez un soin ou ça va aller?
L'After Foot, intégral euro.
Nicolas Villas.
Il est 22h, vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous. On est à J-1 avant la demi-finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et la France. Adrien Rabiot et Didier Deschamps étaient en conférence de presse ce lundi. Il a encore été question du niveau de jeu d'Antoine Griezmann. Les Bleus sont-ils en train de lâcher Griezmann? On écoutera notamment Adrien Rabiot. Venez nous donner votre avis au 32-16. Le temps de jeu de Giroud, le jeu pratiqué par l'équipe de France qui continue de diviser pour Walid Acharchour. Didier Deschamps est une référence qui fait mal au foot de sélection. Ce sera son avis tranché. Et puis gros dossier sur la Roja, le duel Mbappé Navas qui va se dessiner, qui sera la clé du match selon Fred Hermel. Focus sur les milieux, Fabian Ruiz et Rodri. Morata encore dans la polémique, on fera le point avec Fredo. Et puis suite des dossiers des droits télé avec une nouvelle sortie de Maxime Sadé, le patron de Canal, et la réponse de Jean-Pierre Caillot.
C'est un dossier intéressant, ouais. De tout ce que tu as dit avant.
C'est, bon, c'est comme le match de demain, ouais. Quand même.
Ouais. Donc, ce France-Espagne ne t'excite pas?
Si, le match.
Et de parler de...
Pas l'avant-match.
Ah ben.
Ouais, mais ça, on fait ce qu'on peut. C'est ce qu'on peut. Ouais. Comment ils vont Daniel et Walid?
Au top. On garde Djokovic Rouneux.
Pas mieux que toi, parce que t'es malade. Là,
ouais, non, mais les clims, moi, ça me bute.
Vous le clim. Nico, tu as pas les buts à la 90e.
Moi, les engines, mec, c'est ma passion. Tiens, je vous rappelle que cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister à la finale de l'Euro 2024. Alors, ce sera France ou Espagne contre Angleterre ou Pays-Bas. On vous propose de vivre l'expérience RMC. Le voyage à Berlin, vol plus hôtel, la rencontre avec les équipes RMC avant le match. Et bien sûr, vos deux places pour assister à la finale le 14 juillet à 21h. Dès que vous entendrez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16, Euro au 732-16. Écoutez bien, ça peut tomber n'importe quand. Vous direz également que demain RMC sera à partir de 17h, là où tout a commencé pour Kylian Mbappé et William Saliba, puisque demain RMC sera à Bondy pour Rotten sans flamme, le match sur écran géant également avec l'After Live, et puis l'After qui sera également, donc ce sera demain à partir de 17h à Bondy. Il n'y a pas que du foot dans la vie les gars, il y a également du tennis. 8e de finale de Wimbledon avec le joueur préféré de Daniel Riolo qui joue en ce moment même, à savoir Novak Djokovic. Et ça, c'est pas Eric Salio qui va me démentir. Comment il va, Erico?
Ça va. Voilà, bah, Novak Djokovic vient de prendre une gamelle, Daniel.
Passe à Daniel.
Et Nico.
Comment ça, une gamelle?
Sur un long échange. Ouh là là, le genou.
Ah, attention, on va surveiller parce que.
T'inquiète pas, tout ça est fait exprès, une maîtrise.
La dernière fois que t'as dit ça, tu.
Ouh, y a,
voilà, oui, bien trop
la gamelle. La dernière fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Bah, il a pas
fait des appuis.
Il a fait croire qu'il était blessé.
Ah, il a
simulé une opération. Et comme par hasard, un mois après, il gambade sur un coup.
Ah, d'accord, un mois après, bah,
après,
ouais.
Il a simulé une opération.
Les naïfs, comme Walid marchent dans toutes les combinaisons. Mais c'est ça qui fait son charme à Walid.
Mais Walid y croit à toutes les opérations.
Et Walid, il est jeune. Il faut jamais oublier qu'il est frais. C'est un garçon frais.
Il a cette naïveté encore, cette candeur.
Il a cette naïveté, cette candeur. Il est là.
Moi,
il me fait plaisir. C'est pour ça que je l'aime. Parce que tu vois, il est là. L'autre raconte tout. Et il s'était fait une éraflure au genou.
Il a eu peur contre Casper Ruud. Il voulait pas jouer contre Casper
Ruud parce qu'il sentait qu'il allait perdre.
Il avait pas la place pour Roland, sans Nadal, etc. Il a fait exprès. C'est du chiquet.
Il pouvait pas aller plus loin. Avec Alcaraz, Sinner encore en lice.
Zverev, etc.
Comme là, on mise sur un abandon ou pas?
Là, c'est un abandon quand? Qu'est-ce qui va se passer là? Raconte-nous un peu.
En fonction de son tableau, ça devrait arriver au demi.
D'accord. Donc dès qu'il y a Sinner,
il a peur.
C'est vrai que cette année, vu qu'il a gagné aucun titre, il fait exprès à chaque fois.
Il a peur.
Ah, d'accord, il a peur. Donc il a gagné 24 grands chelems, mais il a peur.
Ah non, avant non.
Ah non, non.
Mais moi je remets pas. Attends.
Je
prends question les titres. Tu rigoles quoi?
Daniel, il fait pas de la prédiction sur le passé. Il est pas
remettre en cause les titres. Tu plaisantes. C'est un immense champion.
On en est où sinon?
Je dis juste que le cinéma, si on n'est pas capable de voir, c'est compliqué.
Parce qu'il y a un match entre
Acharchour
et Riolo là, vas-y.
Oui, il arrête pas de faire exprès de tomber, pourquoi en fait?
Bah ça glisse un peu, tu sais, c'est en indoor, donc ça glisse un peu. Donc 2-7-0 pour Novak Djokovic. Il a le break dans le 3ème set.
Tout va bien.
Et attention, il y a 3-2. Mais 40 à sur le service de Novak Djokovic, qui a donc perdu ses appuis à plusieurs reprises là. Mais c'est le genou gauche qui a un peu morflé, j'ai l'impression.
Eric Giopecci, alors, il a perdu aujourd'hui, hein?
Oui, il a perdu, ouais. Ah, ouais. Il était.
Il a perdu, il a perdu, il a pris une leçon.
Non, Moussetti, il a pas un gros match. Hein.
Et puis surtout, il était. Je pense qu'il était cramé, quoi. Il était cramé. Ouais, l'épaule était.
Ah, bah oui, à force de taper comme une brutasse comme ça, l'épaule, elle va se déboîter un jour.
Exactement. Donc là, il a servi que 10 aces aujourd'hui. Pourtant, il a mené un 7-0. Hein. J'étais sur le court, j'y ai cru. Mais derrière, c'était du très, très grand Moussetti qui a retourné vraiment comme un calor. Et donc, ça a fait 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Et puis, quelques heures plus tard, c'est Arthur Fils qui a perdu sur deux minors. Et deux minors, lui, il attend de connaître le vainqueur de Rune Djokovic parce que c'est deux minors qui va affronter peut-être Djokovic dans deux jours.
On sent le forfait de Djokovic.
Merci Eric, on reviendra dans quelques minutes. Il y a également du basket ce soir, match de prépa pour l'équipe de France avant les JO. Il y a un France-Allemagne qu'on suit avec Alex Biggerstaff. Salut Alex.
Salut Nico, salut à tous. 39 partout à la pause entre la France et l'Allemagne. On le rappelle, surtout l'absence de Victor Wembanyama, touché par un syndrome viral. Il ne joue pas ce soir et justement, c'est le moyen de tester cette équipe de France et sa Wemby dépendance. Eh bien, c'est une France aux deux visages. Elle avait plutôt bien démarré le match en prenant le premier quart-temps 19-11, mais elle a cédé dans les toutes dernières minutes du deuxième quart-temps. Elle avait 10 points d'avance à 2 minutes de la pause. Eh bien, finalement, les Allemands sont passés presque devant, 28-20 dans le deuxième quart-temps pour l'Allemagne, 39 partout. Côté français, les satisfactions, Evan Fournier qui a réglé la mire, 10 points pour lui dans cette première période, mais aussi Bilal Koulibaly, l'ailier des Washington Wizards. Et puis côté allemand, ils ont récupéré aussi leur star de leur côté, à l'image de Franz Wagner, le joueur d'Orlando, 13 points pour lui. Il doit avoir le sourire parce qu'il vient de prolonger en NBA à Orlando pour 224 millions de dollars sur les 5 prochaines années.
C'est pas mal, c'est pas mal.
200 millions en 5 ans,
ça va. Ça va, c'est très bien géré. Merci Vivi. On est à J-1 avant la demi-finale de l'Euro 2024, France-Espagne, ce sera demain à Munich, bien entendu. Tiens, quelques infos qui concernent le match, l'équipe de France notamment. Sachez que l'arbitre de la rencontre sera Zlavko Vincic, le Slovène de 44 ans, qui était l'arbitre de la finale de la dernière finale de Ligue des Champions. Voilà, il avait arbitré à l'Euro la victoire de l'Espagne face à l'Italie et celle de la Suisse face à la Hongrie. Vous savez sa petite particularité? Vous vous souvenez de l'histoire il y a 4 ans? Il s'était fait arrêter par la police dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue et proxénétisme en Bosnie. En fait, il y avait une descente de flics. Il avait été pris dans le tas, il y avait une trentaine de personnes. Et au final, il a expliqué qu'il avait été invité à dîner, il aurait pas dû y aller, mais il avait rien à voir avec ce trafic-là. Voilà, ce sera donc Monsieur Vincic demain au sifflet. Info Fabrice Hawkins, la compo probable des Bleus de demain. Donc Maignan dans les buts, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez en défense, Kanté, Tchouaméni, Rabiot au milieu de terrain, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé qui devrait être titulaire en attaque. Voilà, ça vous va ou pas?
Ça me va, vu la dynamique avec les matchs de Griezmann, la titularisation ou non peut se poser. Maintenant, moi, vu le milieu de terrain et ce qu'on voit depuis le début de la compétition, je suis pas sûr que sans Griezmann on a été meilleur que ça. Mais vu l'adversaire avec l'Espagne, donc peut-être mettre un peu plus de vitesse, un peu plus de gabarit, ça peut s'entendre.
Je trouve que c'est pas très solide au milieu. J'aurais mis un mec de plus, Fofana.
Et t'as enlevé qui du coup?
Kolo Muani, pour museler Rodri et l'empêcher de relancer. Voilà. De toute façon, tu sais que tu vas faire que défendre, donc autant on va aller jusqu'au bout du truc. Hein.
Après, mais, je pense qu'il veut mettre quand même trois joueurs à vocation offensive pour les dissuader.
Ok, très bien.
D'attaquer.
On regardera ce que fait Kolo Muani,
n'est-ce pas? Oui, bon, il va défendre.
En positionnement.
Oui, il sera. Va défendre. C'est qui, tu as dit, ailier droit? Dembélé?
Dembélé, ouais. On a Mbappé, Kolo Muani,
Dembélé avec sa rentrée contre le Portugal, il mérite d'être réintégré.
Ouais, ouais.
Bah c'est ça. Voilà. Il y a Idir qui nous dit sur le chat, je comprends pas Kolo Muani sa titulaire. Voilà, il est un peu d'accord avec toi, Daniel.
Qui va défendre. Ouais. Donc ils vont jouer en 8-2 et voilà.
De toute façon, c'est Kolo Muani ou Marcus Thuram. Donc.
Et donc vous l'avez capté a priori.
En fait, à mon avis, c'est celui qui a les meilleurs tests physiques sur la journée d'hier, qui est capable de plus pour rien. Il va voilà.
Générosité.
Dembélé viendra défendre et puis l'important de toute façon, c'est de privilégier Mbappé qui doit surtout pas courir. Ouais. Faut pas qu'il dépasse les 8
km. Il fera ses 7 km. Ouais.
S'il fait 8, il peut tourner de l'œil.
8, c'est l'important, avec une prolongue.
C'est un peu moins. Et puis, comme l'important, c'est que tout le monde défende. Et voilà.
Sauf qu'il vienne.
Je suis désolé sur cet avant-match. Je ne ferai que de l'ironie parce que je ne vois pas de choses intelligentes à dire sur ce que prépare la France. Et ça ne veut surtout pas dire que je n'y crois pas, loin de là, puisque au contraire...
T'es défaitiste, t'es fataliste, tu sais.
Non.
Tu sais à quoi t'attendre, quoi.
Oui, et au contraire, si tu me demandais, je ne pariais que très 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 rarement, mais si je devais parier, je miserais sur les Bleus.
Eh bah tiens, tu sais qu'ils sont pas favoris demain. La qualif de la France, elle est à 2, celle de l'Espagne est à qualif, hein, je parle, pas la victoire. Hein.
Oui.
Celle de l'Espagne est à 1,70.
Mais moi, je pense qu'ils ont tous les atouts pour briser le jeu des Espagnols.
Théoriquement.
À qui manque trois joueurs importants.
Ils ont tout pour casser.
Après, dans les faits, on va voir.
Une fois qu'ils vont redoubler sur Yamal, un bon coup de pression, et sur Williams, et qu'un mec prendra Rodri, ils auront fait l'essentiel du travail.
Bon, après, moi, ça,
c'est ce que ne font pas les autres, parce qu'il y a très peu d'équipes qui finalement jouent de cette façon ou veulent jouer de cette façon. Et là, pour le coup, il faut dire que Deschamps, bah écoute, lui, il a envie et puis ça marche. Tu peux difficilement. Il veut pas, lui, ne veut pas proposer quelque chose. Il veut empêcher
détruire l'autre.
Même si
sur les derniers matchs, ça s'est pas totalement vu, notamment contre la Belgique, où en fait, au final, c'est la Belgique qui a essayé de faire du Deschamps.
Ah bah eux, c'est de pire que tout, ils sont tombés dans le piège absolu.
Exactement, dans le piège jaloux. Moi, après, je peux comprendre ce que dit Daniel, mais j'attends de voir quand même la rencontre, parce que vu la forme des Espagnols, moi, le seul gros problème, c'est de voir Jesús Navas démarrer, on en parlera tout à l'heure. Mais dans les faits, on parle quand même de la meilleure attaque, d'une équipe qui a pris deux buts, dont un CSC de son défenseur central qui ne sera pas là. Moi, je pense que s'il y a bien une équipe qui peut mettre en grande difficulté la France, c'est l'Espagne. Mmh. Et s'il y a bien une équipe
qui
peut mettre
des joueurs importants,
mais s'il y a une équipe qui peut mettre en grande difficulté l'Espagne aussi, c'est la France. Donc c'est pour ça que ça va être une demi-finale excitante. Oui, les joueurs.
Que ce soit excitant, ça l'est.
Les joueurs importants qui manquent, Carvajal.
Mais pour le coup,
Pedri et
Pedri, Dani Olmo, c'est le meilleur joueur espagnol.
Je te dis pas qu'il est pas bon.
Oui, mais il fait un but, une passe D.
Oui, mais sauf que t'es d'accord sur un match aussi important que ça. Si tu es de la Fuentes, t'as le choix entre Dani Olmo et Pedri.
Oui, tu mets Pedri.
Après, non,
Pedri,
on est d'accord pour considérer qu'il est meilleur.
Bien sûr, il est meilleur.
Les 5 changements. Mine 2, ça joue vachement. Imagine, il y a 0-0, t'as la 70e.
Parce que l'Espagne,
tu sais que
à partir du moment où ils
font
rentrer Oyarzabal et compagnie,
c'est pas, même,
hein. C'est pas du tout la même histoire. Il faut que Yamal et Williams, pour être les joueurs de percussion qu'ils sont, ils le soient sur 90 minutes.
Oui,
et ils ne le sont pas tout le temps.
Mais pour moi, l'absence la plus préjudiciable, c'est véritablement le latéral droit.
Ah, moi, j'aurais jamais pensé dire un jour que Carvajal est une grosse perte, mais comme ils n'ont pas de remplaçant.
Bon, enfin, c'est quand même un mec qui est souvent là,
évidemment,
en Ligue des Champions, etc., qui a le vice, qui a l'expérience. Parce que Jesús Navas, il a 38-39 ans et il va se taper Kylian Mbappé. Après, quel Kylian Mbappé, on verra. Mais pour moi, c'est vraiment la plus grosse perte. Nacho qui va remplacer le Normand. Voilà, Nacho, il a déjà montré avec le Real Madrid que dans ce type de match.
Non, ça n'aura pas une surprise sur le remplacement arrière droit.
Ouais, moi aussi. Je pense aussi.
Je suis sûr que Jesús Navas joue.
Tu mettrais quoi, Nacho? Certains estiment que Nacho pourrait jouer.
Nacho,
Nacho latéral droit, il y a le Vivian, la défense centrale de Bilbao.
Ouais.
Et même peut-être mettre Cucurella à droite et Grimaldo à gauche, c'est peut-être une possibilité. Mettre Jesús Navas 39 ans sur Mbappé.
On en reparlera tout à l'heure avec Fred. On va marquer une pause. On vous attend au 32-16 pour venir commenter justement cette compo probable de l'équipe de France. On écoutera également Adrien Rabiot sur Antoine Griezmann, Didier Deschamps qui parle de Giroud et du jeu également. Il a encore une fois été interrogé là-dessus par un journaliste étranger. Il était à moitié agacé, à moitié amusé, Didier Deschamps. A tout de suite dans l'after avec Daniel Riolo et Wally Lacharchou.
RMC, l'after foot, intégral euro.
Nicolas Gillas.
En compagnie de Walid Acharchour et Daniel Riolo avec vous au 32-16. Vous êtes nombreux sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Ce soir encore, l'application Direct Studio qui vous attend également. Demain, la première demi-finale de 7 Euro 2024 entre l'Espagne et la France. Aujourd'hui, on avait Didier Deschamps et Adrien Rabiot en conférence de presse. Alors, vous vous souvenez de ce qu'avait déclaré Kylian Mbappé sur les performances de Griezmann avant le quart de finale face au Portugal? Ça avait pas mal divisé. Aujourd'hui, c'est Adrien Rabiot qui a été invité à s'exprimer sur Grisou et on lui a demandé s'il était surpris par le niveau de Griezmann sur 7 Euro. Écoutez sa réponse.
On est tous surpris quand on connaît la qualité d'Antoine, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a réalisé à la dernière Coupe du Monde. Après, je sais pas comment l'expliquer, peut-être beaucoup moins bien physique. Bien entendu qu'on attend, je pense, à l'extérieur et nous en tant que coéquipiers, beaucoup plus d'Antoine parce qu'il est capable de faire beaucoup plus. On a un collectif de très haut niveau. En tous les cas, on est derrière chacun de nos joueurs. On est là, on soutient nos coéquipiers. Mais bien évidemment que ce serait sans doute plus facile s'ils étaient au top de leur forme. C'est pas le cas. Le coach fait des choix aussi, a dû faire des choix. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Donc pourvu que ça dure.
Voilà la réaction donc d'Antoine.
Si ils n'étaient pas en forme, il parle de qui le deuxième?
Bah Kylian
Mbappé, ouais.
Tu veux qu'il parle de qui?
Ah, passer ça dans le vestiaire?
Bah en tout cas.
Moi je trouve que Rabiot il est assez honnête quoi. Enfin même pas assez, j'enlève le assez de la phrase. C'est un gars.
Est-ce qu'il est pas trop
honnête.
Ah, il y a pas de langue.
Mais moi je trouve pas un peu. Je trouve Griezmann quand même.
Moi je trouve pas. Moi je trouve que d'abord je pense que les mecs sont lucides et que ça sert à rien de mentir et à raconter des balivernes aux gens. On est tous capables de voir.
Pourquoi le fait avec Mbappé alors? Pourquoi ils le font avec Mbappé?
Pourquoi
ils le font avec Mbappé alors?
Je comprends pas ce que tu veux dire.
C'est-à-dire, encore Deschamps, on parlait tout à l'heure, j'ai l'impression, moi, qu'il y a un deux poids, deux mesures.
Ah oui,
oui. Il y a le masque, il y a les élections, il y a la prépa,
pourquoi le dernier en
deux? Dans ce cas-là, c'est traitement équitable, quand même, pour les deux.
Je vais rappeler, je te l'avais dit la dernière fois, en 2021,
Giroud avait quand même dit après un match contre la Bulgarie, faut que les ballons arrivent dans la surface de réparation. Et il avait parlé de Mbappé sans le nommer. Le lendemain, Mbappé, il a quand même convoqué une conférence de presse pour dire que les paroles de Giroud ne lui avaient pas plu. Le statut aujourd'hui de Mbappé dans cette équipe de France est très très différent de celui de Griezmann. De toute façon, on voit bien, Deschamps a tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions, le brassard de capitaine, le système de jeu, le fait que quand il est là, bah il sort jamais ou très très peu, ou à part quand Kylian Mbappé est fatigué. On a bien compris qu'il y avait deux poids deux mesures entre Kylian Mbappé et Griezmann. Ah,
peut-être
Nico.
Qu'il apprendra l'année prochaine que ça n'existe plus, parce que comme toujours dans ces cas-là, moi je dis que le responsable c'est celui qui donne les statuts.
Oui, c'est l'entraîneur, oui.
Donc voilà, c'est ce qui s'est passé au PSG pendant des années, c'est la faute des dirigeants incompétents, ce qu'ils ont fait avec tous les joueurs, hein, vedettes, à chaque fois de tout laisser faire, et de la même façon en équipe de France. Bah, écoute, mais je pense que Deschamps l'assume en plus. Je pense qu'il assume de dire qu'il a un joueur qu'il traite différemment. C'est toujours pareil ce genre de choses. Hein. Quand ça marche, tu dis rien. Quand ça marche pas, tu dis ah non.
S'il fait plus gagner
ça
les matchs,
bah oui, mais c'est là que tout change. Et là. C'est la première compétition où il ne fait plus gagner, où il est pas bon.
Donc il peut encore probablement se rattraper demain.
Il y aura, ben voilà, le truc c'est que en fait, jusqu'à quand, l'histoire c'est le jusqu'à quand. T'as raison. C'est même jusqu'à la finale, personne n'osera rien dire, parce que si à la finale tu y vas, il y a 1-0, c'est lui qui a mis le but.
Ah oui.
Tu sais, quand t'es attaquant dans le foot, c'est un privilège parce que tu peux très vite être un joueur tais-toi.
Mais c'est vrai
c'est
que
le fameux ferme ta bouche.
Oui.
Mais quand t'es un mec sur qui un ballon peut tomber pour que tu sois l'unique buteur du match, c'est et que tu fais gagner un titre, tu sais, c'est comme Cristiano au Portugal. Hein. Quand après le quart de finale, après le huitième, j'ai fait mon analogie avec Dalida. Je te laisse imaginer le nombre d'insultes de tes compatriotes que j'ai bouffé.
Il y a pas que compatriotes, hein, les fans ils sont partout.
Ouais, moi aussi j'ai mangé.
Oui, on est d'accord. Menaces en tout genre, machin. Ouais. Et évidemment, en disant ça, bon, je trouve que je ne m'arrête pas à ce genre de choses, parce que sinon, tu t'en prends pas une vedette comme lui, parce que tu sais très bien qu'il peut te faire taire en deux secondes. C'est un attaquant, il joue avant-centre, il joue un match contre la France, imagine. N'importe quel ballon, un péno peut lui tomber dessus, peut le marquer, même un coup franc, tu vois, même s'il en rate 9 sur 10, il peut en mettre un. Mais sauf qu'il y a des vérités qu'on doit dire à un moment. On doit dire que Cristiano a été un boulet pour la sélection. Et là, jusqu'à la finale, pour l'instant, c'est un boulet, Mbappé.
Il rate complètement sa compète.
La différence avec Cristiano au Portugal, la différence selon moi, alors c'est peut-être pas une différence, c'est toi tu vas me le dire.
C'est qu'il a 14 ans de moins déjà.
Et non, la différence c'est que je pense que les Portugais avaient moyen de faire autrement. C'est-à-dire en mettant un neuf comme Ramos ou en jouant autrement. La France a peut-être moyen de faire autrement une fois qu'on constate que Mbappé est pas bon. Sauf que ce constat, bah, il arrive.
Pour moi, t'as le moyen de faire autrement dans les deux cas, de la même façon.
Alors, si tu me permets, ça mérite une précision.
Vas-y.
Je pense que Cristiano Ronaldo, ça fait un petit moment qu'avec la sélection, à part les fameux matchs de qualif, ouais, en compétition, il y a un. Donc, tu sais que tu peux. Ramos, il peut jouer dans le 4-3-3,
Ramos,
il peut
Jota,
jouer. Voilà, ou Jota
joueurs.
Et tout. En bleu, à partir du moment où tu ne sais pas que Mbappé va te faire 7 euros parce que. T'es convaincu parce que ça a toujours été le phare de ton équipe qui va se réveiller. Je sais pas si t'as eu le temps de préparer quoi que ce soit, un plan B.
Bah non, c'est juste. Bah non, parce que Deschamps, son plan
surtout
de jeu,
Deschamps,
c'est,
voilà.
Son plan de jeu, c'est défendre et voilà.
Mais moi, pour revenir
voilà.
Sur mon analogie,
c'est ça. C'est que là, il se retrouve pris de court. Il dit, premier match, il est mauvais. Merde, deuxième match, il est mauvais. Merde, non, je m'y attendais pas. Qu'est-ce que je fais?
Mais Martinez, c'est le Deschamps de Wish, sauf qu'il est mieux payé que lui. Mais donc, il s'en sort plutôt.
Non, mais c'est pour ça que je voulais ton avis là-dessus.
Pour moi, les qualifs, justement, au contraire, le fait que Ronaldo est cartonné lors des qualifs, voire au cours de certains matchs amicaux, Martinez, il s'est conforté dans son choix.
Ça lui a donné un crédit.
Bien sûr, l'hallucination, c'est de se dire comment tu le fais jouer aussi longtemps, notamment le match contre la Géorgie où ça sert à rien, et pourquoi tu le fais jouer deux fois 120 minutes. C'est ça qui est complètement.
Non, mais, ouais, je suis
non, mais surtout le problème avec Mbappé.
Surtout que tu as une vraie solution.
Alors oui, alors le problème, c'est qu'avant l'Euro, on avait eu le débat. Quand tu vois ce que Ramos avait fait dans les matchs, les peu matchs qu'il avait fait avec la sélection, mais y compris les matchs importants avec Paris, franchement, tu dis Ronaldo sort d'une grosse saison, que ce soit avec son club et avec la sélection. Ramos, il n'a pas encore ce statut, il n'est pas en confiance. Avant la compète, il y avait match. Mais pendant la compète, c'est ce que Santos avait fait à la Coupe du Monde. Ça allait coûter sa place. Mais à un moment, il s'est rendu
d'accord,
compte.
D'accord. Donc,
que
ça, donc
pas
c'est quelque
faire.
Chose qui peut être similaire. Je suis d'accord avec toi.
Prendre,
d'accord.
En fait.
Non, mais tu m'as convaincu.
Pour
c'est un truc
sur Mbappé, le gros problème, c'est que déjà, le plan de Didier Deschamps, ça a toujours été ça. C'est-à-dire Mbappé plus 10, avec tout ce qui. va avec, c'est-à-dire ne pas défendre, le mettre complètement libre à sa meilleure place. Mais la deuxième des choses, c'était la même histoire avec le PSG, c'est que Mbappé doit être fort. Parce que Mbappé a montré, de par ses accomplissements en équipe de France, que c'était ce joueur-là qui devait te faire gagner. Et que derrière,
mais s'il le fait pas.
Et que derrière, il y a quand même un gouffre entre lui et ce que doivent être les autres joueurs. C'est-à-dire Barcola, c'est sa première compétition. La même chose au Paris Saint-Germain.
À quel moment tu changes les choses?
À partir du moment où tu fais un projet autour de lui, que tu lui donnes, entre guillemets, les pleins pouvoirs que tu lui as donné.
Oui, mais Daniel, il a raison.
Comment tu fais pour acter ça?
À quel moment tu bascules?
À un moment, tout ça, c'est du constat, Walid. Mais à un moment, il faut passer à l'étape d'après. Essayer de se mettre à la place du sélectionneur. Ce qui est difficile pour moi de mettre à la place de Deschamps, parce que je ne jouerais pas du tout autrement. Mais quand tu n'as jamais réfléchi à une alternative, que pour toi, c'est ce que tu viens de décrire. Après, débloquer. Débloquer parce que les gens disent bah, t'as qu'à mettre l'attaque du PSG. Moi, je veux bien. Mettons-nous une seconde à la place de Deschamps.
Mais lui, il se dit tant que ça passe, je garde.
Le problème, c'est que ça passe.
Ouais.
Imagine pour la demi-finale, il y a Mbappé, t'as vraiment été mauvais contre le Portugal. On va mettre Barcola, été éliminé.
Mais tu peux pas mettre Barcola parce qu'encore une fois, la stature et le CV de Kylian Mbappé, le fait que si tu te fais éliminer sans Mbappé, c'est pas possible en fait.
Je sais,
parce que, dans leur tête, et c'était la même chose pour Luis Enrique dans les grosses échéances, c'est que avec tout ce que j'ai dit de bien de Barcola, pour lui, un Mbappé à 70%, voire à 60%, c'est meilleur qu'un Barcola à 100%. Parce qu'il y a ce fameux, c'est pas un fantasme parce qu'il l'a montré, mais ce fameux potentiel du fait qu'il allume la lumière à un moment donné dans la compétition et qu'il puisse l'allumer en demi ou en finale. Mais pour revenir très rapidement sur le débat par rapport à Griezmann, c'est surtout sur le management en fait. Aujourd'hui, personne n'en parle parce que ça gagne, mais je reste persuadé que ce qui se passe autour de Griezmann, notamment, et autour de Giroud actuellement, le management, en fait, tu te perds parce que Griezmann, même s'il n'est pas bon, Mbappé n'est aussi pas bon et il n'y a pas la même communication. Exactement, il y a deux poids, deux mesures. Et ça, le problème, c'est que l'équipe de France, quand elle gagne, quand elle va loin, c'est pas que Mbappé. Il y a aussi Antoine Griezmann et aussi Olivier Giroud et d'autres. Donc, le tout Mbappé, à un moment donné, ça a un peu ses limites. Et moi, je trouve que Griezmann, notamment, est très, très fair. Et très fair play dans autant sur le terrain, je le trouve totalement déconnecté.
J'ai toujours dit que c'était un gars exemplaire.
Non, mais autant il est déconnecté sur le terrain et son attitude parfois elle laisse un peu à désirer depuis le début de la compétition. Autant en dehors, je trouve que dans toutes ses déclarations, il est super. C'est-à-dire qu'à aucun moment, alors qu'il s'en prend plein la tronche. Moi, je répète, mais Mbappé, on en avait déjà discuté avec Kevin vendredi dernier. Mbappé, quand il dit, c'est pas une honte de dire que.
Moi, je t'avoue, je l'ai pas perçu comme ça.
Mais non, c'est pas une honte de dire que Griezmann, en gros, il est à côté de la plaque. Si c'est Griezmann qui dit ça de Mbappé, ça passe pas de la même manière. Je te le dis, ça passe pas de la même manière. Donc sur ça, Griezmann, je trouve que il avale des couleuvres, beaucoup de couleuvres depuis le début de la compétition. Et heureusement que ça gagne pour Didier Deschamps.
Les gars, juste on va voir Eric Salio parce que c'est terminé pour Djokovic à Wimbledon, Eric. Hein.
Oui, victoire en 3-7, très convaincant Djokovic, 6-3, 6-4, 6-2. La petite interview sur le court a été très intéressante parce qu'il s'est pas fait que des amis puisqu'il a trouvé qu'il y avait une partie du public qui avait été irrespectueuse.
Oh, bah évidemment, tu penses qu'on n'a rien le droit de dire.
Mais non, mais parce que en fait, il a cru qu'on le sifflait.
Il y a
un phénomène, tu sais, sur le circuit, quand Roudeux a marqué un point, on faisait ouh le, et il croyait qu'il était sifflé. Il y a eu une petite incompréhension, mais en tout cas, il était cash avec le public. Vous m'avez manqué de respect. Et croyez-moi, je sais ce que c'est, ça fait 20 ans que je suis sur le tour. Ça va faire jaser tout ça.
Eh bien, c'est le méchant du film. C'est le méchant du film.
Et voilà, encore une fois, il croit à ces histoires. Il est rigolo. Il croit que Djoko est vraiment le méchant.
Il y a les gentils du film.
C'est juste le méchant qui veut être gentil. Mais c'est pas ça. C'est ça que moi.
C'est qui au prochain tour, là, pour Djoko?
C'est dominant. Le match n'aura pas lieu sur Daniel Riolo.
Non, c'est celui d'après.
Ah, celui d'après. Contre Fritz.
Merci Eric d'avoir été avec nous.
Je ne vous dis pas demain parce que je regarderai les Bleus, je pense.
Ah, ouais, t'as raison. Tu vas te régaler, mon pote. Prépare-toi.
Oui, toi la nuque. Moi, quand ça gagne, je suis content.
T'es là, ouais, bah voilà, t'es un footix.
Parce que juste pour terminer, Nico, juste pour terminer et pour revenir.
On poursuivra après, on a
pour revenir sur le débat, c'est que moi, Griezmann, sur le tournoi, il est vraiment pas bon. De toute façon, tout le monde le voit. Tout le monde l'a vu.
Mais, tout le monde le dit en plus.
Mais s'il y a un mec qui n'est pas mis entre guillemets dans les meilleures conditions, parmi les gros statuts, c'est Griezmann. ce sera sûrement la cinquième ou la sixième compo d'équipes différentes demain contre l'Espagne. C'est un mec qui a joué ailier, qui a joué dans un milieu à quatre, qui a joué neuf et demi, qui a joué dans différents systèmes. Et à chaque fois, il doit s'adapter, il doit avoir le sens du sacrifice. Et souvent, c'est lui qui paye les pots cassés des choix de Didier Deschamps. Hein.
Allez, on y va les gars. On poursuit le débat dans un instant. On sera avec Pierre qui nous a appelé au 32-16. On écoutera Didier Deschamps sur Olivier Giroud, sur le jeu également. Et c'est une nouvelle fois un petit peu agacé contre un journaliste qui a fait une réflexion. On aura ton avis tranché également.
On lui a fait une réflexion.
Ouais, c'est un journaliste suédois cette fois-ci, tu vas voir.
Ah, les étrangers s'y mettent.
Il croyait pas. Il a dit non, vous n'êtes
pas suédois. Il a dit, mais attends, mais ils sont sérieux là, les mecs, c'est pas possible.
Il était à toi de dire à la fin.
On l'écoutera.
Vous, la Suède. Sur les journalistes étrangers, généralement, ils n'aiment pas.
Ouais. Bah là, il a dit, ouais, en gros, non, vous habitez en France, vous tuez. On l'écoutera. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Foot, Intégral Euro.
Nicolas Gillas.
Et Daniel Riolo et Walid Acharchour, 22h30, vous êtes sur RMC. On est à J-1 de la demi-finale entre la France et l'Espagne à l'Euro 2024. Mais il y a également les JO. Vous savez qu'RMC est la radio officielle des Jeux Olympiques. Et il y a un match de prépa pour l'équipe de France de basket. France-Allemagne, match conçu avec Alex Biggerstaff. Ça se passe bien, Bibi, ou pas?
Ça se passe pas très bien, mon Nico. Hein. 4 points de retard pour les Bleus. Disons,
tout à l'heure, il menait, qu'est-ce que ça foutu?
Il y a un petit problème de confiance. On le rappelle, hein, sans Victor Wembanyama qui est malade ce soir et qui ne joue pas, ben les Bleus ont beaucoup de mal à se trouver sur le parquet, ont beaucoup de mal aussi à mieux défendre que quand ils sont avec Victor Wembanyama. Du coup, 4 points de retard à 2 minutes de la fin du 3e quart-temps. Et cette équipe d'Allemagne qui sera, on le rappelle, dans le groupe de l'équipe de France aux Jeux Olympiques avec le Japon et aussi le Brésil. Ben voilà, les Bleus devaient se retrouver ce soir sans Wemby pour savoir où ils en étaient. Ben pour l'instant, dans la difficulté.
Merci, merci mon Bibi. Tiens, juste pour finir avec le débat Griezmann qu'on avait il y a quelques instants, on a Pierre qui nous a appelé au 32-16, qui nous attend depuis de longues minutes. Salut Pierre.
Salut Nico, bonsoir à tous.
Bon Pierre, qu'est-ce que t'en penses toi de ce qui se passe autour de Griezmann, là, toutes les sorties qu'il y a? Comment tu le trouves toi? Bon, pas bon certainement, mais tu l'aurais mis titulaire demain face à l'Espagne ou pas?
Je sais, franchement, j'ai jamais eu autant mal à la tête pour choisir la compo que j'aurais voulu pour l'équipe de France. Je trouve que tout est compliqué parce que, enfin, je vous l'avais tout dit, hein, Mbappé et Griezmann sont catastrophiques. Je trouve que Dembélé, il a été exceptionnel au dernier match, mais finalement en sortant du banc. Alors est-ce que c'est pas mieux de le laisser sur le banc? Je trouve que Kamavinga, il m'a convaincu, mais pourquoi on le verra bio? Je trouve que c'est vraiment difficile pour Deschamps de faire la compo de l'équipe. Moi personnellement, je le laisserais. Parce que finalement la dernière compo qu'on a eue où il a joué en phase défensive faux numéro 9 et en phase offensive numéro 10 avec Colomoigny et Mbappé qui passaient en pointe, bah finalement on s'est qualifié, donc pourquoi pas les laisser. Mais j'en voudrais pas à Deschamps s'il était sur le banc, si je suis très honnête. Donc connaissant Deschamps, je vois pas pourquoi il changerait la compo de l'équipe. Et à mon avis, bah, il va rester avec exactement le même système que.
Tu sais, moi je tenterais quoi moi? Le problème c'est que qu'il faudrait travailler l'animation. Et Daniel a dit qu'il voulait pas en parler ce soir. Mais je mettrais Griezmann en faux numéro 9 moi.
Je
mettrais Mbappé à gauche, Griezmann qui serait sur Rodri notamment dans le fait d'aller essayer de le perturber un peu comme Gundogan.
Il serait pas en faux neuf, il serait en milieu de terrain.
Non, oui, enfin le mec,
4-3-1-2 quoi.
Non, mais le mec le plus haut, c'est-à-dire Griezmann l'a déjà fait à l'Atlético, il peut jouer.
Toi, tu crois encore que les Bleus devant ils bossent ce genre d'idée?
Non, mais j'ai commencé comme ça.
Ils font pas ça. Je te dis juste que les Bleus c'est 4-3 bloc de 7.
D'accord, OK, très
bien. Et après avec les trois autres il bricole. Okay, et avec les trois autres, il dit, tu sais ce qu'il dit? Il dit, il y en aura bien une.
Vas-y, oui, voilà. Et je mettrai Colomoigny ou Dembélé à droite avec, deux attaquants, c'est-à-dire. Deux mecs qui pourraient, encore une fois, prendre l'espace et avec un Griezmann, solution supplémentaire de milieu de terrain, mais aussi qui peut se projeter et apporter le nombre.
Il a déjà fait ça.
Non, il l'a fait quand?
C'était genre Griezmann en 10, quoi. Derrière
oui, mais il y avait un attaquant. Moi, je garderais quand même Mbappé, deux ailiers, quoi. Deux ailiers, et je pense que ça pourrait être une animation
juste pour bloquer Rodri.
Ouais.
Bon, mais Fofana, alors. Il va mieux le bloquer, il pourra même lui mettre des coups, tiens.
Oui, enfin, avec Griezmann, je pense en termes de créativité.
Que si jamais il y a une récupération du ballon, il peut en faire quelque chose.
Il peut lancer Mbappé.
Honnêtement, vu sa création depuis le début de la compète, il l'a pas fait, cette idée de lancer les mecs.
Pierre,
non, mais sur le fond, t'as raison, mais en fait, ça me paraît illusoire tellement Deschamps ne travaille pas ça.
Vas-y, Pierre.
Moi, Walid, je dois pas voir le même match que vous, hein, mais c'est possible. Moi, pour moi, le dernier match, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en phase défensive, tu avais Mbappé à gauche, Colomboigny à droite, Griezmann en faux numéro 9.
Moi, j'ai vu beaucoup
plus. Dès qu'on avait le ballon, Mbappé
Griezmann,
et Colo est passé en pointe, quoi.
Ouais,
bien sûr.
Griezmann n'était pas aussi ça. Griezmann n'était pas aussi haut et j'ai pas trouvé que c'était plus un 4-4 de losange, moi je trouve, avec le ballon. Après, bon.
Non, mais en phase défensive, il collait la ligne. Mais bien sûr. Et
tu crois que si contre le Portugal, il était pas très haut, tu penses qu'il va l'être contre l'Espagne? Mais il va se mettre au milieu de terrain. Griezmann, il a toujours fait ça.
Je suis d'accord avec Daniel.
Griezmann, il ira à la mine. Hein.
Oui.
Il ira charbonner.
Du coup, il jouera comme tu le veux, Walid, quoi. Il jouera en faux numéro 9, mais en phase défensive.
Enfin, là, il sera pas là, vu que ce sera Colomboigny qui sera en 9 et Dembélé à droite.
Faux 9, c'est 10.
Oui.
Grosso modo, hein.
Cette zone-là, c'est cette zone-là.
Ouais, oui. Voilà.
Pierre, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Bonne
Nico.
Soirée, Pierre. À très vite, Pierre. Tu reviens quand tu veux. Tiens, juste, je voudrais juste qu'on entende Didier Deschamps également, qui a été interrogé sur Olivier Giroud. Alors, on lui a demandé pourquoi finalement Giroud jouait si peu au cours de 7 euros. Écoutez la réponse de Didier Deschamps.
Bah, il est rentré 3 fois quand même. Après, j'ai des choix à faire. Et Olivier est là, évidemment, c'est par rapport à l'efficacité qu'il peut avoir, même si je le répète, sur les 3 matchs non titulaires, mais il est rentré, il n'a pas été plus efficace que les autres. Après, tout dépend des situations aussi. Mais évidemment, plus de présence, je freine pas à ça. Bien au contraire. Les occasions, on les a. On pourrait en avoir plus, mais on les a. Évidemment, sur un match comme celui de demain, c'est quelque chose qui va être important.
Voilà, alors moi, juste pour vous dire, c'est parmi les joueurs utilisés par Deschamps dans 7 euros, c'est le troisième qui compte le moins de minutes. Voilà, il a joué 45 minutes au cours de 7 euros. Bon, bah voilà, Deschamps.
Après,
il n'a pas été plus efficace que les autres.
Pour le coup, s'il y a un match où pour moi Giroud doit débuter sur le banc, c'est demain.
Ouais.
Parce que tu vas très peu avoir le ballon, même si bon, il peut être en pivot un point d'appui intéressant, mais quand il va falloir aller très très vite vers l'avant, c'est pas le joueur le plus rapide. Mais après, dans sa communication, c'est un peu comme ce que je disais sur Griezmann. Comme Deschamps a toujours raison, on espère que Kylian Mbappé dans son tournoi demain, parce que vu comment il s'est coupé de Giroud et de Griezmann depuis le début du tournoi, on espère que tout ce management va lui donner raison.
Et ben justement, on va l'écouter Didier Deschamps qui était donc lui aussi en conférence de presse. Et un journaliste suédois l'a donc interrogé sur son jeu ennuyeux, boring comme il a dit. Réponse de Dédé, alors aussi amusé qu'agacé. Hein.
Bah écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave. Et c'est un championnat d'Europe particulier où c'est très difficile pour tout le monde. Ce que je sais, c'est que nous avons la capacité de pouvoir partager des émotions, de rendre beaucoup de Français et de Françaises heureux à travers les résultats qu'on a pu obtenir et surtout dans la période compliquée dans notre pays, quoi. Maintenant, si les Suédois s'ennuient, voilà. Pas trop d'importance pour moi quand même.
Voilà, alors vous vous souvenez qu'Ousmane Dembélé avait lui aussi répondu à ses critiques en déclarant « Ceux qui ne sont pas contents avec notre jeu, ce n'est pas notre problème ». Et tout à l'heure, sur RMC, Eric Dimeco dans l'Intégral Euro a fait une réponse à Ousmane Dembélé et Didier Deschamps.
Moi, quand Didier dit « Les mecs peuvent changer de chaîne », ça me gêne parce que problème, c'est que les mecs, ils changent de chaîne. Quand tu vois que ce quart de finale a fait 12 millions alors que la dernière fois c'était 16, l'argument de cette baisse de visibilité, c'est que tu ne te régales pas devant tous les matchs en plus de 7 euros. Il n'y en a pas beaucoup de matchs où on s'est régalé. Moi, quand j'entends Dembélé qui dit « on s'en fout », mais non, tu t'en fous pas. Ce qui se passe sur nos droits télé, pourquoi notre championnat, personne ne veut l'acheter, même pas 500 millions, alors qu'ils en voulaient 1 milliard? C'est quoi? Les joueurs, quand Dembélé dit ça, ils se rendent compte quand même que les mecs qui le payent, avaient une partie de son salaire, est payé par des cons comme nous, qui regardons les matchs, et qui, donc, ils s'en foutent de nous.
Et voilà qui a inspiré un avis tranché à Wally.
Attends, 2 secondes avant l'avis.
Vas-y.
L'intervention parfaite d'Éric Dimeco.
Comme souvent.
Parfaite. Et il met le doigt sur quelque chose d'essentiel, la bêtise de certains joueurs de foot. Parce que là, il a réellement mis le doigt sur la bêtise d'Ousmane Dembélé, qui n'est pas foutu de comprendre comment il remplit sa fiche de paye. Et ça, c'est quelque chose qui ne l'aurait pas expliqué, visiblement. Et l'état dans lequel est notre football, le 8 juillet, à ne pas avoir de droit télé, tout ça provient de là. C'est la même réflexion. C'est de ne pas comprendre et c'est de mépriser les gens qui sont devant la télé et qui suivent le foot. Et Deschamps fait partie de ce mouvement, à ne pas comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais laisser l'avis de Walid et après j'expliquerai après, ce que je pense Daniel, de Deschamps sur ce dossier.
Dembélé, il est à la botte de la communication de ce que doivent dire aujourd'hui l'équipe de France.
Griezmann a rétro-pédalé.
Moi j'en ai rien à foutre de la communication.
En gros, Griezmann avait dit la même chose avant la compétition.
Moi, la communication,
arrêtez de nous faire chier. Oui, d'accord.
Moi, les gens qui s'endorment ou qui se laissent endormir par la communication sont des idiots.
Oui, d'accord, mais ok, d'accord, très
ça
bien.
Ça fait des années que les politiques font la même chose, nous endormir avec la communication et à croire que le peuple est composé de crétins qui ne comprennent pas les magouilles, les manigances, les arrangements et ce pourquoi tu veux un poste quelque part. Tout ça, c'est de la merde.
D'accord, mais
et croire que les gens tombent à chaque fois dans ces panneaux-là.
Ok.
Moi, permets-moi naïvement, pour le coup, c'est moi qui vais me mettre dans la peau du naïf.
Donc toi, ton
Permets-moi de croire que l'honnêteté, c'est encore la meilleure chose dans la vie.
Tu penses que Dembélé va venir, il va dire oui, je me fais chier, j'ai trois ballons par match. Tu penses qu'il va dire ça, Daniel Riolo, en pleine compétition,
je complète pour que tu comprennes. Il ne va pas dire ça. Pourquoi?
Mais parce qu'il peut pas, parce que aujourd'hui il est en équipe de France. Okay. L'équipe de France chemin-là avec Didier Deschamps, et donc il a la bande de Didier Deschamps.
Je suis d'accord avec toi, et donc ça ne m'empêchera pas de penser que donc il est malhonnête, au minimum.
Oui, peut-être.
Au minimum.
C'est de la langue
parce
de bois.
Parce qu'il ne dit pas ce qu'il pense.
C'est de la langue de bois.
Parce qu'il ne dit pas ce qu'il pense.
C'est un idiot, etc.
Alors, deux choses l'une. Soit il pense réellement qu'il en a rien à foutre de ce qu'il regarde, et donc on retourne à ma première catégorie, il est bête, parce qu'il ne comprend pas comment ça marche, et l'écosystème et tout le business. Ou alors, deux, il pense que l'équipe de France joue mal et parfois ça l'embête. Et dans ce cas-là, il dit pas la vérité pour faire de la com. Et il est au minimum malhonnête.
Mais attends, juste pour mettre un peu entre vous deux. Moi, ce que je trouve de plus,
si la communication c'est le mensonge, c'est pas de la bonne com.
Griezmann, il est malhonnête. C'est Griezmann, ça fait 4 ans qu'il te dit, nous, en fait, on joue comme ça. Là, encore après la Belgique, quand le journaliste de Beansport lui dit, bon, vous avez gagné 1-0 sur un but de CSC, arrête, fais-moi pas chier avec ton but du CSC, etc. C'est comme ça.
Je vais donner mon avis sur Griezmann.
Pourtant, Griezmann, il est pas bête.
Alors, Griezmann n'est pas bête.
Mais parce qu'il a la botte de Deschamps.
Non, parce que je pense que c'est encore autre chose. Griezmann, il a été éduqué au football dans ce club qui est l'Atlético, où effectivement eux ils jouent de cette façon-là et que ça lui va très bien en équipe de France de retrouver ce genre de style-là, mais il oublie, et ça c'est, il lui manque une partie de l'intelligence dans sa réflexion, c'est que l'Atlético a le droit de développer historiquement ce football-là parce que t'as le Real et le Barça à côté.
Mais attends, tu crois pas toi, c'est tout simplement parce que qu'il a mangé un tir.
Parce que
qu'il a mangé un tir
que
quand des il a dit on est champion.
Peut-être Nico. Ouais,
moi je vois plutôt ça, hein, franchement.
Peut-être. Mais si les gars vous êtes pas capables de vous délivrer du système et vous êtes obligés de répéter bêtement ce qu'on vous dit.
Moi je vais dire un
vous
truc.
Vous faites votre vie comme vous avez envie de l'entendre.
Tu sais ce que je trouve de plus dérangeant, Daniel, c'est par exemple dans la sortie de Dembélé, c'est même pas le fait qu'il mente, c'est plutôt le fait qu'il soit méprisant
vis-à-vis des gens. Parce que tu penses qu'il va se faire dégager de l'équipe. Mais après il ira dire.
Mais moi c'est
dans les médias, s'il est honnête, je me suis fait dégager parce que j'ai donné mon avis. Ça occasionnera ce qui se passe, comme tous les gens honnêtes quand ils s'expriment, c'est que c'est l'autre qui se fera dégager à terme.
Mais Daniel, lui dans sa tête, il se dit si je dois aller gagner un euro et que c'est comme ça, j'en ai rien à faire du spectateur. Moi, je vais avoir mon titre. Il est dans cette range là.
Mais tu peux pas mépriser ceux qui sont d'accord avec
toi. Bien évidemment qu'il va aller au PSG.
Il peut pas mépriser
avec Lucien Riquet.
Ça ne marche pas à terme cette réflexion là. Ça finit toujours dans le mur parce que les gens, comme a dit Eric, ils finissent par changer de chaîne. Et après, c'est la première étape, ça va être tes revenus qui vont tomber. C'est exactement le cas de figure. Il l'a expliqué, Eric. C'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1 aujourd'hui. Il y a zéro. Et t'as un président dont on va parler tout à l'heure qui est tellement ignorant qu'il a pas compris que de dire que si deux matchs ne passent pas à la télé, mais c'est les sponsors qui vont faire la gueule. Mais tu te rends compte, les sponsors maillots, les gens, les loges où il y a tous ces invités qui viennent siroter du champagne, les panneaux publicitaires. Mais tu te rends compte que c'est des gens, c'est des hommes d'affaires et des chefs d'entreprise qui disent des conneries pareilles. Mais on se rend compte de ça?
Oui, mais ça n'a rien à voir avec.
Mais tout a à voir, c'est le même système, Walid.
Tu penses que Dembélé pense à ça quand il répond à
ça? Eh ben alors, s'il y pense pas, c'est qu'il est bête.
Mais aujourd'hui, il répond à une question d'un mec sur une conférence de presse sur
la télévision. Il n'y a pas l'intelligence nécessaire pour comprendre tout ça. Voilà.
On va faire une pause, les gars. On poursuit dans un instant. Et avec ton avis sur Didier Deschamps, vous êtes chaud, les mecs. Allez, on revient tout de suite sur RMC.
RMC, l'after foot, intégral euro.
Nicolas Gilas.
Avec Walid Acharchour, avec Daniel Riolo, à Vitranchet, Walid à venir, sans Didier Deschamps dans un instant. C'est le moment, vous l'avez entendu, l'alerte pour vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024 et remporter votre voyage pour Berlin et assister à la finale de l'Euro 2024. Donc il y a le voyage, l'hôtel, les deux places pour la finale, les rencontres avec les équipes RMC. Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16 par SMS à partir de maintenant, Euro au 732-16 et donc remporter le pack complet l'expérience RMC pour la finale de l'Euro 2024. Bonne chance à vous. Et on y va. Bon Walid, donc tu voulais faire un avis tranché sur Didier Deschamps. Allez,
comment on dit un mensonge en anglais?
Good luck.
C'était quoi ça? Un mensonge?
Non, mais c'était du troll. C'était une blague.
T'es parti chercher où celui-là?
C'était une blague, c'était une blague.
Ah bon, ok.
J'aime bien. Donc, j'aime bien troller Nico Jamin. Par contre, je savais pas comment.
Lie, non?
Comment on disait mensonge en anglais.
C'est ça, non?
Encore bilingue.
Didier Deschamps, la référence qui fait mal au foot de sélection, mon Walid. C'est ça que
non, non, oui, je voulais parler de ça avant le rendez-vous avec contre l'Espagne. Alors oui, bien évidemment, Didier Deschamps est la référence en tant que sélectionneur aujourd'hui. Depuis un bon bout de temps, les résultats plaident pour lui, la récurrence, la régularité. Donc, je veux pas contester le fait que ce soit une référence. Maintenant, le gros problème, c'est que en étant cette référence là, en montrant le chemin à d'autres sélectionneurs que c'est comme ça que tu gagnes ou que tu vas loin dans les compétitions, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour le football de sélection. Je mets Didier Deschamps bien évidemment en avant, mais je pourrais parler de Southgate, je pourrais parler de Roberto Martinez, je pourrais parler de Tedesco sur le 8e de finale, des sélectionneurs aussi sur le continent africain, des sélectionneurs sur le continent sud-américain. On voit hein, pas mal de sélectionneurs prendre en exemple Didier Deschamps sur les dernières années, tant dans le management que dans la production du jeu. Et bien évidemment, demain, allez la France hein, contre l'Espagne. Mais si on gagne l'Euro, hein, si on regagne l'Euro, moi je suis pas sûr que ce soit une très très bonne nouvelle pour.
L'Euro, il a pas gagné Deschamps, donc il va pas regagner.
Oui, enfin, s'il regagne un titre.
En tant qu'entraîneur.
Hein? Et il va gagner l'Euro.
Mais en tant que joueur, non?
Oui, mais là on parlait de sélectionneur. Là on parlait de sélectionneur. Oui, mais en tout cas, si il gagne l'Euro après la Coupe du Monde, ou même au-delà de gagner, d'aller très très loin dans les compétitions, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle parce que ça va encore accentuer la thèse que on gagne et on va loin en sélection comme ça, en changeant énormément de composition, en donnant l'impression de pas proposer un football cohérent parfois, en se calquant et en donnant énormément de poids aux individualités et surtout en fait ça donne beaucoup d'enfants légitimes ou illégitimes à Didier Deschamps. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà évoqué Southgate, ce qu'a fait Roberto Martinez avec le Portugal, ce qu'a fait
avec la Belgique aussi,
ce qu'a fait Tedesco avec la Belgique où en fait il a voulu jouer au jeu de Didier Deschamps et à la fin il s'est fait éliminer, il s'est fait prendre à son propre jeu. Donc voilà, je voulais ouvrir la question là dessus. Je sais pas si Daniel ce soir va vouloir en parler, mais en tout cas moi j'estime que ça peut être un gros problème quand on parle d'ennui, quand on parle de flémardise aussi parfois dans les systèmes de jeu du côté de la sélection. Alors je nie pas le fait que quand tu es en sélection t'as moins de temps qu'en club hein, bien évidemment ça on est tous conscients, mais moi je pense que ça peut devenir un problème et beaucoup se plaignent de l'Euro actuel. Moi, je pense qu'on va on va se tourner dans les prochaines années sur des choses qui vont aller de pire en pire.
Sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, on a un Ngachi qui nous dit si l'Angleterre ou la France gagnent l'Euro, ouais, c'est la mort du football. Bah, c'est vrai que c'est un peu football, c'est peut-être la finale qu'on va avoir.
L'Angleterre et Southgate aussi dedans. Je ne parle pas que Didier Deschamps parce que Southgate, si on regarde bien sur les dernières compétitions,
en termes de perf objective, oui,
c'est quelqu'un qui va souvent dans le dernier carré. Et juste pour terminer, pour l'honnêteté, parce que moi j'ai une subjectivité foot, hein, j'aime les entraîneurs qui produisent du beau jeu, mais je pourrais dire la même chose de Guardiola, où il a aussi beaucoup d'enfants légitimes ou illégitimes, et la dérive des entraîneurs qui se prennent pour Guardiola alors qu'ils sont pas Guardiola, ça peut aussi devenir un problème dans le football de club. Mais je préfère des Guardiola de Wish, beaucoup de Guardiola de Wish, plutôt que des Deschamps de Wish, parce que je pense quand même que on pourrait avoir un football un peu plus réjouissant.
C'est un peu has-been Wish maintenant, non? On est plutôt sur du oui, DHG, du TMU, non?
Je sais pas, j'ai pas ces références-là, en tout cas. Hein. Du pauvre, alors, pour ceux qui y comprennent pas.
Moi, je pense que les cas sont assez différents sur le fond. Tu sais que j'ai le même avis que toi sur le jeu. Je pense que Southgate, c'est pas un choix, c'est juste qu'il est mauvais. Je sais pas quoi faire, il empile les mecs, il sait pas trop comment choisir qui doit jouer avec qui, parce qu'il a beaucoup d'individualité, donc il sait pas faire. Tedesco, c'est pas réellement une référence, il a un CV quasi vierge. Je suis pas sûr que son ambition se soit de bétonner. Il a voulu faire le malin.
Oui, mais c'est ça lui a donné cet exemple en se disant c'est comme ça que je vais passer.
D'accord. Il a voulu faire le malin. Il s'est planté. Deschamps, c'est totalement différent parce que Deschamps, il l'assume. C'est son jeu. C'est sa pensée depuis toujours. Et en fait, je vais faire le psy, non pas de comptoir parce que je suis convaincu de ce que je vais dire. En fait, moi, je crois beaucoup aux cicatrices originelles. Deschamps, c'est Platini qui l'a lancé en équipe de France quand il était tout gamin. Je crois, de mémoire, ça doit être un France-Écosse, si je me souviens bien. Et Platini était assez cassant derrière des chambrages et tout ça. Et quand il a dit, quelques années plus tard, avant l'Euro 92, bah, vous vous rendez compte que dans cette équipe-là... Louis, c'est notre meneur de jeu, alors qu'à notre époque à nous, c'était le 6 qui ramassait les ballons. C'est dire le niveau de mon équipe. Tous ne l'ont pas bien pris, et notamment Deschamps. Il y avait également Sauzé dans l'équipe. Il y avait pas mal de... Et Deschamps, il a jamais supporté cette histoire du porteur d'eau. Platini le disait. Il avait cette expression, parce qu'à l'époque, ça se disait dans les années 80, t'avais le 10 et le porteur d'eau. Le gars qui est à côté, lui ramassait les ballons.
Le besogneux, quoi.
Au contraire d'un Louis qui a toujours non seulement assumé ça, mais qui s'est émancipé de ça même en devenant un 8 où il a beaucoup progressé. Et lui, il n'avait pas honte de ce truc-là, de dire « bah oui, moi, à l'époque de Michel, je bossais pour lui, pour lui ». Deschamps, il ne supportait pas ça. Non seulement il l'a vécu avec l'entraîneur qui l'a lancé, mais il a dû le vivre ensuite toute sa vie avec Zidane. Où celui qui a le plus gros palmarès, c'est Deschamps. Mais celui qu'on aime, qui n'a quand même pas un palmarès vierge, hein, oui. Mais celui qu'on aime, c'est Zidane. Tout le temps, il a vécu avec cette histoire-là. En gros, le beau, le moche. Ça, moi, je suis con. Moi, quand on me fera pas croire qu'ils sont fous des critiques, que cette histoire de le beau jeu, bah, si vous êtes pas content, au fond de lui, ça le meurtrit. Parce que il pense même que ça peut atténuer son palmarès.
Évidemment, il le vit comme une injustice.
Mais évidemment, il le vit comme une cicatrice.
Moi, j'ai beaucoup d'exemples de défenseurs, de milieux de
terrain. Il est sans arrêt en train de répondre à ça.
Non, d'accord.
Walid, c'est une souffrance.
Sur l'exemple de l'entraîneur. Sur ton exemple, il y a beaucoup de défenseurs besogneux, des milieux de terrain besogneux qui sont passés de joueurs à entraîneurs et qui, moi, souvent me disent, ouais, moi, je veux pas être le joueur que j'étais. Je veux bien jouer au football.
Je veux pas être l'entraîneur.
Et donc, il aurait
pas lui.
Non, mais donc, il l'assume totalement, ce côté moche, et il le développe même.
Mais bien, absolument. C'est ça. Lui, il veut te prouver que c'est comme ça qu'on gagne.
Tu peux
et que c'est
bien.
Et que les beaux, lui, en fait, c'est la revanche du moche.
Ouais, c'est d'accord. Ça.
C'est la revanche du moche. Il a été lancé par. Il a eu dans sa vie, à des moments importants, les deux joueurs que les Français aiment le plus dans l'histoire. Ma génération Platini, la tienne Zidane. Et lui, il est là au milieu. C'est le mec qui a le plus gros des palmarès. Il a été joueur, entraîneur, il gagne tout. C'est le seul qui est champion du monde, joueur, champion du monde. Et il est moins aimé que les autres. Ouais, évidemment qu'il le vit mal. C'est un truc, il sent, c'est une injustice. C'est la revanche du moche. Mmh. Bah, t'as perdu quand tu étais jeune, quand t'allais en boîte de nuit. Toi, t'étais le plus séducteur avec les femmes, tu devais avoir un copain qui ramassait moins que toi.
Non, j'étais ce deuxième copain.
C'est moi le copain. Je vais te faire une analogie avec un autre, parce que tout à l'heure, tu faisais une analogie avec Ronaldo et le Portugal. Il y en a un autre qui est exactement dans cette configuration-là, et pour qui sa carrière d'entraîneur a été une revanche sur sa carrière en tant que joueur, qu'il n'a pas eu, mais c'est Mourinho. Mourinho,
t'as vu quand il parle. Évidemment.
Moi, j'étais le fils d'eux. Je jouais dans des clubs, dans les réserves des clubs où mon père entraînait. On disait que j'étais pas bon. Je vais leur prouver que sans avoir été un grand joueur, on peut être un grand entraîneur. Et lui, toute sa vie, ça a été ça.
Mais pourquoi j'ai toujours dit que dans l'histoire de Mourinho, moi, j'ai adoré cet entraîneur, hein, la première période de sa vie, parce qu'il était novateur. Mais la bascule qu'il opère le jour, ça doit être novembre 2010 ou 11, le 5-0 contre le Barça, ouais. le premier, le marquant, quoi. Mmh. Là, il opère une bascule.
Ouais. Le doigt dans l'œil de Tito Villanova, pour moi, c'est le...
C'est le deuxième, ouais, ouais. C'est la moi, continuité c'est de l'épisode. Là, la bascule, elle est là. Ce qu'il fait avec Porto, c'est magique. Il va à Chelsea, il arrive à conquérir l'Angleterre. Il va à l'Inter, qui n'avait plus gagné depuis un, il fait un triplé monumental. Oh, les gars, vous me respectez, c'est moi le patron. Et là, je prends un 5-0 par un mec qui n'a pas encore tout gagné. Et qui régale la terre entière parce que son équipe joue bien.
Il avait gagné 2009 quand même.
Et vous me mettez. Mais c'était pas assez par rapport à Mourinho.
Oui, il avait...
Et vous me mettez devant lui. Et aujourd'hui, le génie du foot, c'est Guardiola. Et Mourinho, il est peut-être entraîné en Turquie.
Mais pour revenir sur mon
c'est pour ça que je me bats tout le temps avec cette idée du beau, du moche. Mmh. Qu'est-ce que retiennent les gens? On retient que les vainqueurs. C'est du bidon tout
raison,
ça.
Les gens ont besoin de vibrer.
Ils aiment le beau jeu. Quand tu gagnes une fois, moche. C'est génial, ça te fait un bon souvenir. Tu gagnes un derby, 1-0 à la 90e en t'étant déchiré. Ok, ça te fait un bon souvenir. Mais au final, ma génération, on adore Platini, cette équipe-là, qu'elle est gagnée, qu'elle n'est pas gagnée. Mais voilà, mais au bout d'un moment, c'est pas ça. Tu veux qu'il se passe un truc dans ta vie.
Au passage du gars à 18h
pareil, du gars excellent là.
Sur les critiques, notamment de ses commentaires sur France Portugal, il était excellent, vraiment à écouter. Mais pour revenir sur la vie tranchée, moi c'est pas forcément Deschamps que je critique. C'est bon, moi je me suis fait une raison, je me suis incliné là-dessus. Moi c'est surtout même ce qui se passe autour en fait, parce que là sur le tournoi, on s'ennuie et on a très très peu de buts, notamment parce que je pense qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui sont dans cette gamberge là. Je donne un autre exemple dont j'ai oublié, Spalletti. Spalletti, il arrive dans un football de sélection. Il sort d'une année avec le Napoli extraordinaire. C'est l'une des équipes en Serie A. Moi, j'ai 30 ans, j'ai pas connu le grand
Maradona.
Non, mais j'ai pas connu les années 90. J'étais beaucoup trop petit. Mais c'est l'une des équipes qui m'a le plus procuré d'émotions en termes de jeu. Il arrive après le premier match contre l'Albanie où il joue plutôt bien. Il cadenasse contre la Croatie, il cadenasse contre la Suisse. Il revient un espèce de football qui lui est étranger. Alors moi, je veux bien que l'histoire, on peut pas calquer sur tous les sélectionneurs.
Est-ce qu'il a le même matos qu'un Deschamps?
Exactement. Mais tu sens qu'il y a un retour un petit peu. En football de sélection. Alors il y a des contre-exemples. L'Espagne, parce que l'Espagne c'est naturel, c'est comme ça. Ils sont élevés, ils sont formés comme ça. Il y a un peu l'Allemagne avec Nagelsmann parce que c'est un entraîneur qui est comme ça aussi. Mais je trouve qu'il y a qui est un Deschamps ou deux Deschamps. À la limite, c'est comme ça, opposition de style demain, c'est hyper excitant. L'Espagne contre la France. Allez, on va voir qui est le plus fort dans deux styles différents. Mais qu'on ait énormément d'équipes et qu'on soit énormément dans le calcul, parce qu'en fait, on se dit, en fait, finalement, que c'est comme ça qu'on va aller très très loin. Moi, ça me dérange un peu, en fait. Et je me dis que si on prend cette tangente là, ça peut commencer à devenir très très compliqué. Hein. On rappelle que parce que là, on part un peu loin, mais R9, il y a 10 jours, a dit qu'il préférait regarder du tennis que du football. Hein.
Ronaldo,
hein. Non, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se pose les questions aussi. Mm-hmm. Si ce type de tournoi-là, où on s'ennuie, où c'est très bien, on va aller aux Champs-Élysées si on gagne, mais qu'à un moment donné, il n'y a pas que Deschamps. Mais si on a beaucoup de sélectionneurs qui nous ennuient et qui prennent ce chemin-là, ça va être très très compliqué à suivre le football.
Dans un instant, Fred Hermel sera avec nous. On va ouvrir le dossier de la Roja, adversaire de la France demain, bien entendu. Le duel Navas-Mbappé, celui entre Koundé et Nico Williams, les milieux de terrain, Fabien Ruiz et Rodri, la polémique. Morata, on va faire le point avec Fredo. Juste petit détour par le basket. France-Allemagne, match de prépa de l'équipe de basket avant les JO. Bon Bibi, est-ce qu'ils se sont relancés les Français ou pas là?
Ils sont en plein dedans avec ce shoot de Nico Batum. C'était pour égaliser à 68.
Tu disais qu'ils étaient cuits, qu'ils perdraient tout à l'heure.
Eh ben, ils ont du caractère, Daniel. 1 minute 35 encore à jouer dans cette fin de quatrième quart-temps. 3 petits points de retard pour l'équipe de France qui montre du caractère ce soir sans Victor Wembanyama.
Et allez, l'after qui revient dans un instant avec Daniel Riolo, Walid Acharchour et avec Fred Hermel. À tout de suite sur RMC.